bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale FSJU. J'ai le plaisir de recevoir Richard Audier, directeur général du FSJU France, et même plus encore. Bonjour Richard Audier.
Bonjour Dan.
Très heureux de vous recevoir ici au micro de Radio Judaïka. C'est toujours pour nous un plaisir et évidemment un honneur de recevoir le directeur général du FSJU France. Vous n'êtes pas venu seul, bien entendu, c'est accompagné ou en tout cas reçu par Laurent Gradvol, le délégué général de Strasbourg Grand Est. Bonjour.
Bonjour Dan.
Bonjour Laurent. Heureux de vous retrouver également dans ce studio. L'actualité, Richard Audier, est riche et nombreuse, non pas seulement juste à Strasbourg, mais au FSJU en France. On va peut-être commencer par d'abord un focus sur l'activité et les récentes ouvertures strasbourgeoises, les inaugurations et surtout les innovations. Je veux bien sûr parler de la librairie solidaire. Allez,
ouais,
Laurent, c'est Laurent qui...
Ouais, c'est Laurent qui...
Et effectivement, je tiens à ce nom, c'est la librairie solidaire, la Tzedak Livre. Ça fait effectivement 4 ans que nous avions lancé dans nos locaux une bourse au livre solidaire, grâce aux dons de beaucoup de donateurs qui nous apportaient leur bibliothèque. La dernière en date, en 2019, nous avions vendu plus de 1022 ouvrages sur une journée. Donc après cet immense succès, beaucoup de nos concitoyens corrégionnaires voulaient qu'on en organise 2, 3, 4 dans l'année sur Strasbourg, ce qui était matériellement impossible. Donc nous avons réfléchi depuis 2 ans à trouver un système économique intéressant pour rapport à nos frais pour ouvrir une librairie. Et grâce à un généreux donateur strasbourgeois, nous avons pu trouver un local qu'il nous met à disposition. Et nous avons ouvert cette librairie, la Tzedak Livre, où les gens continuent à nous amener, je vais dire, des livres. On en a des dizaines de milliers en termes d'ouvrages. On en reçoit même de Paris. Dernièrement, on a récupéré plus de 25 cartons à Paris de livres de tout genre. Donc des BD, des romans, de l'hébraïka, des essais, des poches. Et j'avoue que depuis le 9 juin, nous avons vendu plus de 700 ouvrages déjà. Donc c'est un véritable succès au niveau aussi des personnes et des familles qui viennent acheter ces ouvrages
qui sont
vendus au prix de entre 20 centimes et 7-8 euros pour les plus luxueux. Donc on voit des familles nombreuses qui repartent avec 20-30 ouvrages sous le bras, avec des sourires immenses des enfants qui peuvent se permettre d'acheter ces livres pour un montant maximal de 5 euros la totalité.
En fait, cette librairie solidaire, c'est presque une marque de fabrique de la délégation strasbourgeoise, son innovation, sa motivation et surtout son rayonnement, qui nous fait le plaisir aussi de recevoir la délégation, le délégué général, surtout le directeur général, Richard Audier. Richard Audier, le FSJU est en pleine transformation. C'est un petit peu le cadre de ce moment. Finalement, on a vécu, bien sûr, une crise. Ça nous a obligés, toutes et tous, à nous transformer, à nous réinventer. Quid du FSJU qui est en pleine mutation et surtout en pleine requalification?
En fait, nous, on n'est pas en transformation, c'est le monde qui est en transformation. Donc, par définition, on doit s'adapter, évoluer, penser, réfléchir, créer. Donc, c'est plutôt le monde qui change. Les donateurs changent, les bénéficiaires changent, les problématiques évoluent. Aussi parce que l'État protecteur vient mettre de l'aide ou abandonne des chantiers suivant les impératifs fiscaux. Donc nous, par nature, on doit être dans la transformation. Alors c'est vrai qu'on avait un côté traditionnel de maintenir des programmes, de maintenir des réflexions. Et depuis maintenant quelques années, et la librairie solidaire est un bon exemple. C'est-à-dire que la culture doit aller vers les gens, on doit... Le principe du fonds social, c'est un parcours d'assistance. Donc on s'appuie sur des associations, sur des bénévoles, sur des partenaires. Et en fait, toutes les problématiques, elles sont multiples. Or, les réponses d'habitude étaient en silo individuel, un problème d'obsèques, un problème alimentaire, un problème de handicap, sauf qu'on gère nous global. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des partenaires comme l'AEJ par exemple à Strasbourg. Et la librairie sociale, c'est cette librairie de Tzedaka, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on vient rétablir en fait l'accès à la culture pour tous. Et l'exemple de ce qu'on a fait à Strasbourg, on le décline partout en France, puisque c'était notre rêve à nous d'amener dans des librairies, dans des épiceries pardon, solidaires, de la culture. Donc c'est au début, c'est des livres, mais on va amener des lectures, on va amener de l'art-thérapie, on vient étendre toutes les difficultés que peut rencontrer une personne, une famille, dans ces sujets. Et donc la transformation du fonds social, en fait, elle vient répondre à des problématiques sur lesquelles on se planche au moins sur 10 ans. Hein. On disait ça avec Laurent, on a travaillé dimanche avec nos élus. Et c'est vraiment une obligation, c'est-à-dire que le monde vraiment change. Au-delà du Covid, hein, on avait initié ça avant, on avait parlé d'ailleurs à ce micro.
Tout à fait, voilà. Tout à fait.
On a eu la chance d'avoir préparé un peu avec agilité, non pas le confinement, non pas le Covid, mais toute cette partie-là qui avait des problèmes d'isolement avec les personnes âgées, sur le handicap. Et finalement, on a travaillé jour et nuit pendant 18 mois au service de tout le monde, je crois.
Alors, il y a une, on parle effectivement, le monde change, se transforme. Il y a aussi une véritable notion de professionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on travaille avec des bénévoles ou des associations que ça ne doit pas être professionnalisé. Et j'en veux pour preuve la remontée finalement de cette certification que vous êtes en train de créer, qui est une première en France pour le monde associatif juif, je pense à IDEAS.
Voilà. Alors en fait, dans le monde classique, on a une image très négative de l'association et du professionnel. On peut donner des milliers d'exemples de structures qui ont dû fermer parce qu'ils disaient qu'il y avait des coûts, il y avait des opérateurs, etc. Nous, c'est simple, nos comptes sont publiés, on les transmet, il y a 8% de frais de fonctionnement qui me permettent d'avoir un loyer, une lumière, etc. Le reste, c'est des gens qui créent, qui font des choses. Et en fait, professionnaliser, c'est professionnaliser les salariés, mais c'est professionnaliser les bénévoles, les élus. Et donc, pour faire ça, pour amener dans une démarche collective, on a choisi de se faire labelliser par une institution qui a été fondée par la Caisse des dépôts, par BNP Paribas et l'Ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes, qui dit, je ne vais pas seulement vérifier que vous êtes cachère dans vos comptes, que vous êtes transparent dans vos comptes, faudrait l'espérer, on est reconnu d'utilité publique depuis 85, mais en fait que vous êtes cachère par rapport aux souhaits des donateurs, aux souhaits des bénéficiaires et aux souhaits des élus. Et donc ils nous accompagnent pour mettre en place 92 critères de fonctionnement. Ça va du système de vote en passant par le contrôle de gestion, en sachant qu'on avait déjà deux commissaires aux comptes chez nous sur nos seuils, mais aussi comment on choisit un programme, pourquoi on soutient une association, quels critères on demande à une association d'être aidée, comment on aide, c'est le sujet qu'on a souvent dans le social. Le social, c'est Sisyphe, c'est-à-dire que les besoins sont illimités. Donc comment on donne 100 euros ? À qui on le donne ? Celui qui a faim, celui qui a froid, celui qui a besoin d'une chaise roulante, celui qui a besoin d'un iPhone, d'un smartphone, on l'a vu pendant cette crise du Covid. Donc ça, en fait, on nous demande de voir comment on évalue les risques. Et en fait, c'est une vraie démarche juive. C'est pour ça que la charité, c'est pas le bon mot, et c'est la tzedaka. On rétablit une justice, et pour que la justice ait lieu, il faut qu'il y ait un tribunal. C'est Tirdov, tu vas chercher une vérité, une poursuite d'une justice. Et cette mishpat, cette justice, elle est faite par des critères objectifs et qualitatifs. Je prends un exemple tout bête. Si on n'était que objectif, ça ne marcherait pas.
C'est ça.
Par exemple, je prends une communauté qui n'est pas ici, mais si je prends Metz, par exemple, au Besançon, on pourrait se dire, c'est des petites communautés, on n'a pas besoin d'aider. Si, parce qu'un des sujets du Fonds social, c'est pas de faire du 1 pour 1 en termes de bénéficiaires, mais c'est aussi de préserver une vie juive dans des communautés plus petites. Donc nous, on a une action aussi sur ces villes. On a ça à Grenoble, on en parle souvent chez nous, on maintient une école juive à Grenoble, et il n'y a pratiquement pas d'élèves par classe, il y a une dizaine. Et c'est vrai qu'il y a des écoles, notamment ici, qui sont une trentaine. Mais si on ne subventionne pas cette école, si on ne l'aide pas, il n'y a plus de vie juive, d'école juive à Grenoble. Donc on doit mixer le qualitatif et le quantitatif, et on essaie de le rendre objectif. Voilà, c'est un peu complexe à expliquer, mais c'est assez simple à...
Finalement, c'est le mesurable, recevable et surtout quantifiable ensuite dans les faits.
Voilà, exactement. En fait, on a un biais cognitif, on a un biais de connaissance, l'être humain.
Perceptif.
On le voit bien sur tous ces drames qu'on voit avec ces complotistes, ces effets des réseaux sociaux. En fait, nous, on essaie de casser ce que le cerveau va nous amener comme biais, pour se dire, non, on va essayer de raisonner au calme, de façon plus réaliste, de façon unie, de façon parlementaire. Chez les juifs, c'est pas évident. Moshe Rabbeinu n'a pas réussi, donc nous, je ne sais pas si on va être aussi performants. Mais en tout cas, voilà, c'est ça la démarche qu'on est en train de faire. Et on espère pouvoir donner cette méthodologie pour toutes les structures.
Finalement, le fil conducteur reste évidemment les valeurs juives, les valeurs inculquées depuis, vous l'évoquez, depuis Moshe Rabbeinu. Et de ça, finalement, s'induit également la charte éthique et la charte des bénévoles que vous êtes en train de mettre en place, ou en tout cas qui est en train de se construire.
Oui, alors la charte éthique, c'est une petite révolution dans le monde juif aussi.
Pourrait se dire qu'elle est de fait.
Voilà, on pourrait se dire qu'elle est de fait. En fait, ça veut dire quoi une charte éthique dans le monde juif, dans le monde associatif, en fait. C'est très très simple. Ça se résume en une phrase. Je sers la cause, je ne me sers pas de la cause. Alors quand on le dit comme ça, on se dit tiens, c'est bon. Mais en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la priorité, c'est le bénéficiaire final. Et on avait un séminaire dimanche, et je rappelais que nous, notre cause, ce n'est pas le fonds social, c'est les gens qu'on aide. Et donc notre cause, c'est aider les gens. C'est d'aider des gens à partir en colonie de vacances. C'est d'aider des gens à manger. C'est d'aider d'être éduqués. Donc notre cause, c'est pas d'avoir le logo du Fonds social partout. C'est pas le sujet. C'est de servir la cause. Et c'est très difficile parce qu'on a tous des prérogatives, on a tous des liens affectifs. Et on essaie justement de se dire que les gens qui viennent travailler avec nous, ils doivent se mettre au profit d'un collectif. Et c'est pas évident. Non seulement parce que nos bénévoles, par définition, ils cherchent quelque chose, et c'est normal. Moi, je suis donateur. Quand je donne de l'argent, je me fais plaisir. Je recherche aussi un don fiscal. Je recherche peut-être un peu d'ego pour dire je dis pas que je donne, mais en même temps, je fais genre que c'est pas anonyme, mais bon, voilà. Donc, il y a toujours un intérêt quelque part. Ce qu'on essaie de faire, c'est que ces intérêts soient au profit d'une cause.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas mal d'avoir un intérêt. Il faut aussi, on peut le dire. Hein,
on peut le dire, c'est pas
je crois que c'est important, c'est de dédouaner.
Il faut oui, bien sûr, il faut l'assumer. Je veux dire, quand on prend Jacques Hesse, le président du Fonds social,
que nous saluons,
ou Alain Hézène à Metz, voilà, c'est des gens qui sont bénévoles, qui passent un temps fou, ils contribuent, mais quelque part, certains vont travailler leur identité juive, d'autres se rappeler du souvenir de leur famille, qui ont construit quelque chose, d'autres pour éduquer leurs enfants. Donc on a tous un intérêt. La seule chose, c'est que cet intérêt, il doit être au service de la cause. Donc l'ego peut exister, c'est un moteur l'ego, c'est pas un problème. Sans l'ego, on n'aurait pas fait la librairie solidaire. Sans égo, on n'aurait pas bâti cette synagogue ici ou le quartier de Strasbourg. Pour autant, il faut que cet égo soit absolument au service de la cause. Et en aucun cas, la personne doit l'emporter sur ce collectif. Et c'est ce qu'on écrit dans la charte éthique. Et ce qui fait que si quelqu'un ne se plie pas à ça, il y a le DIN, il y a une petite justice qui fait que on vient le confronter gentiment, avec probité. Mais voilà, on a mis en place... un outil assez simple.
Alors ça, c'est la charte éthique, donc pour cadrer, en fait, si vous voulez, si on comprend bien l'ensemble, et la charte des bénévoles, qui est tout aussi importante, parce qu'il y a le contenant et puis le...
Voilà,
alors
les bénévoles, ils sont soumis à cette charte éthique, bien évidemment, c'est sur des sujets, sur la discrimination, sur l'égalité homme-femme, sur le respect d'autrui, mais aussi, pour nous, ça nous oblige à leur amener une formation, expliquer ce qu'on fait, répondre à leurs questions, et puis identifier les heures qu'ils le font, puisque dans le système français, vous le savez, dans les années 70, il y avait la crise du pétrole, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. En France, globalement, on n'est pas très généreux en argent, mais on est généreux en heures, et donc on essaie de valoriser ces heures de travail. Alors c'est vrai qu'on a eu du mécénat de compétences, on a des entreprises qui nous donnent des experts, ça a été remarquable, mais on a aussi des bénévoles toute l'année, et c'est intéressant de voir le nombre de milliers d'heures, c'est des centaines de milliers d'heures qui sont données, et les valoriser. Et donc on les suit pour avoir une idée, et puis une gratification aussi, c'est intéressant de voir, même pour la personne, quand elle va réaliser un élu chez nous, par exemple, qui fait... Qui a 12 comités par an, qui va faire de la collecte, qui va assister à un gala, qui va aller à une inauguration, qui va avoir une association. Quand dans l'année, il va voir qu'il a fait 100, 120 heures de travail, c'est énorme. Et en fait, même pour lui, c'est intéressant de comptabiliser.
Bien sûr. Alors, Richard Redier, vous êtes en tournée, en Tour de France. C'est vrai qu'on a souvent se dit les Parisiens, nos entités sont souvent lointaines. On vous voit souvent à Strasbourg et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. On se sent donc en proximité et c'est important, je crois aussi, que la capitale se rapproche aussi de ces régions et vous le prouvez maintenant depuis plusieurs années. Et les projets qui sont développés ici à Strasbourg et dans les autres villes sont les témoins. Quels sont justement, Laurent Gradvol, Richard Redier, les prochaines étapes de ces rencontres et surtout de ces actions à mener. Et en fait, le problème n'est pas de les trouver, c'est de choisir laquelle on va mettre en avant. Et je sais, Laurent, qu'il y a de belles choses à venir.
Oui, on a un beau projet, effectivement, pour rester autour de la culture, autour de la mémoire et même de la Shoah. C'est une exposition assez importante autour des 78 justes alsaciens venus d'Alsace. Donc c'est une exposition qui n'a jamais été montée. Nous faisons un partenariat aussi avec Yad Vashem, bien entendu. Et on a créé un comité scientifique depuis plus d'un an qui a travaillé sur l'histoire de ces justes venus d'Alsace qui ont sauvé des juifs ailleurs qu'en Alsace. Puisqu'effectivement, tout le monde sait que les juifs ont été évacués comme tout le monde. Il n'y avait plus de juifs sur Strasbourg, sur la région. Ils étaient éclatés sur l'ensemble du territoire. Et des gens ordinaires, des gens qui n'étaient pas des héros à la base, et bien, au péril de leur vie, ont sauvé des juifs. Et nous avons souhaité effectivement les mettre sous les feux de la rampe, sous le feu des projecteurs, suite aussi à la profanation de nombreux cimetières, je veux dire alsaciens. On a voulu amener cette exposition, créer cette exposition pour la faire porter dans les villages, dans tous les villages où sont issus tous ces justes d'Alsace.
Eh bien, merci pour ces précisions et surtout nous attendons cette exposition avec impatience. Richard Audier.
Moi je dirais, il faut construire le passage de génération en génération. Donc on parlait de Moshe Rabbeinu, mais on a Abraham hein, qui a fait un truc assez étonnant. Hein. Il était riche, il était dans sa tente, il était tranquille avec la famille. Puis il a dit, Hineni, je me mets en avant, je pars. Et je prends des risques et je me mets... Je sors et puis je vais voir, je sors de ma tente, je sors de Our. Ben nous, on monte un programme pour ça, pour la jeunesse, pour construire en fait les cadres communautaires. Alors c'est un vieux discours de dire on fait la formation des cadres. Pourquoi c'est un vieux discours? Parce que finalement, on nous fait un peu de formation, mais on ne leur donne pas les clés. Nous, ce programme-là qu'on met en place, on le fait avec les services civiques, notamment, qui sont chez nous. On a 50 services civiques jeunes avec nous. Ces jeunes-là, en fait, on leur donne... Là, on est sur Radio Judaïka, mais on leur donne la place dans nos radios. On leur fait monter des films, on leur fait donner la radio. Et puis ceux qui vont faire ce programme de certification avec Hineni, qui ont un programme qui va allier les grands sujets de développement durable, d'environnement, d'éthique, de gestion, et bien sûr des textes juifs qui se lient à ces sujets. Et en fait, ce programme va donner droit en fait, à être administrateur de nos structures. Et on espère que les structures avec lesquelles on travaille autour de nous vont faire la même chose, c'est-à-dire les mettre administrateurs. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire on transmet, mais il faut leur donner les clés. Et eux, ils ne veulent pas être élus.
On leur donne une place.
Voilà, on l'a vu dans les élections départementales et régionales. En fait, on ne leur donne pas vraiment de place.
C'est ça.
Donc, ils ne votent pas. Ben, nous, on va leur dire non, non. Non seulement on vous donne, on vous forme, mais on vous oblige à prendre votre place. Ne dites pas que vous n'avez pas, mais vous êtes obligés. Alors, ils vont venir, pas venir. En fait, y a un proverbe anglais qui dit dans la jeunesse, on apprend, et dans la vieillesse, on comprend. Mais ça, c'est l'inverse du judaïsme, en fait. Et on le voit bien, un pays comme Israël, il a été construit par des jeunes. Ils nous poussent, ils ne font pas que apprendre, ils comprennent, et ils nous éclairent sur un futur. Donc il faut qu'ils soient autour de nous. Et c'est vrai que c'est nous, au Fonds social, il y a 220 élus. Donc on ne les choisit pas, on ne va pas dire on prend l'âge, le sexe, s'il est de gauche, s'il est de droite, s'il est orthodoxe,
pas
libéral.
Pas de ségrégation.
Pas de ségrégation. Pour autant, il faut que les gens se présentent, c'est toujours la même chose. Pour gagner au grattage, il faut acheter le ticket. Bon, ben là, c'est pareil. Donc là, en fait, on va les imposer, être cooptés, pour qu'ils prennent le pli d'être dans les structures. Et il faut qu'ils le soient au consistoire, au CRIF, dans les structures. En fait, il faut que le jeune vienne, et pas seulement le jeune qui a fait un mouvement de jeunesse. Mais on parlait avec des experts comptables, ils disent « Ah oui, nous, on vous aide un peu dans l'audit ». Je dis « Mais non, mais c'est bien. Moi, je veux que vous soyez au board ». Il faut être candidat.
Et que vous soyez actif et que vous soyez candidat.
Et que vous soyez actif, et donc il faut les emmener dans la démarche de l'éthique. Donc ça, c'est un sujet un peu plus compliqué, c'est d'ouvrir les organes réellement.
Alors c'est les ouvrir, journée. Et puis avoir les candidatures. Donc j'entends là aussi un appel officiel que vous faites sur Radio Judaïka. C'est une première sur les radios régionales. Donc on vous en remercie, Richard Audier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Et
merci
surtout,
à vous.
On continue de soutenir, et surtout on continue d'être proactif. Et tous ceux et celles qui nous entendent ou qui nous écoutent, venez candidater et surtout investivez-vous. Je crois que c'est le mot qu'il faudra et transmettez pour les plus âgés.
Transmettez, ouais. Il faut se mobiliser avec le sourire. Et les temps sont durs, mais les actions sont belles.
Merci beaucoup, Richard Audier.
Merci, Laurent
Gradvolch.
Merci, Laurent. Merci,
très, très belle journée.
Merci
et à bientôt
vous.
Sur les ondes de Radio Judaïka 102.9.